sur quoi fonder la justice et le droit. Déjà, je rajoute des mots. Alors, vous êtes venu pour la justice et vous avez une sorte de conférence exceptionnelle avec le droit en plus, une sorte de grand pack politique. Ce soir, on va essayer vraiment de donner une analyse, une ligne d'analyse qui permette de comprendre un petit peu tous les fondements de la vie politique, en 1h15, ce qui est très ambitieux, non ? Oui. Alors pourquoi cette ligne d'analyse ? Bon, sachant qu'on mettra surtout l'accent, hein, vous êtes quand même venu pour cela, sur la justice. Mais toujours la justice quand même entendue plutôt au sens politique, même si cette lecture devrait permettre de la comprendre dans tous les sens possibles. S'interroger sur la justice, on va le voir, ça nécessite de se donner une certaine vision de l'homme et de réfléchir, là aussi on le verra, au fondement du droit. Quelle est la nature de l'homme ? Qu'est-ce qui fonde le droit ? Qu'est-ce qui fonde la justice ? Ce sera nos questions. Et on va comprendre assez vite pourquoi, si on essaye de partir d'un fait, il existe une vie politique, une vie en communauté. On vit ensemble. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de se soumettre à des hiérarchies, à des lois, à une certaine forme de communauté ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut entendre par des lois justes ? Et comment peut-on estimer la justice de cette communauté qui est la nôtre ? Alors, pour le comprendre, on va déjà partir, là encore, d'une certaine forme de lecture de l'homme, en considérant que l'homme n'est pas un animal, qu'il n'est pas non plus un sage. Ça va nous servir beaucoup, on va le voir. L'homme n'est pas un animal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà qu'il n'y a aucun instinct particulier qui le règle pour une vie en communauté. D'ailleurs, il n'y a aucun instinct particulier qui le règle pour une vie en solitaire non plus. Donc il n'est pas d'emblée conduit à vivre parmi ses semblables parce qu'il y aurait derrière des lois naturelles qui le pousseraient à le faire. Comme on pourrait le dire, je ne sais pas, soyons peu originaux, les fourmis ne se posent pas la question, sauf dans le film Fourmis, de savoir pourquoi elles sont ensemble, pourquoi elles œuvrent pour la fourmilière. Bon. L'homme n'a pas ces instincts-là, il en a, mais pas celui-ci, qui le pousserait naturellement à vivre ensemble. Et il n'est pas non plus pour autant un sage, parce que si tous les hommes étaient pleinement raisonnables, par nature, on peut se dire tout simplement qu'ils n'auraient pas besoin des lois. Ils n'auraient pas besoin de prévenir les méfaits qu'ils peuvent se faire les uns aux autres. Et ils n'auraient pas non plus besoin d'une hiérarchie politique qui les organise et qui gère leurs différends. Alors, c'est à partir de là qu'on va essayer de se donner, pour ce soir, une certaine grille de lecture. On va faire une sorte de coupe franche et diviser les visions de l'homme en deux. Et ça nous fera autant de fondements de l'État, deux fondements de l'État possibles, tout aussi vraisemblables l'un que l'autre, et ça nous fera aussi deux fondements de la justice, là encore tout aussi vraisemblables l'un que l'autre. Le premier courant qu'on va examiner, c'est ce qu'on va appeler entre nous, hein, ce n'est pas le sens philosophique du terme qui sera ici employé, mais plutôt un sens commun, ce sera une vision réaliste de l'homme. Donc on va essayer de voir d'abord une vision réaliste, l'homme du point de vue réaliste, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va le voir, c'est l'homme considéré comme d'abord un être qui finalement n'apprend jamais de ses erreurs. C'est une vision qui consiste à s'appuyer d'abord sur des faits. Et dans les faits, qu'est-ce qu'on constate quand on étudie l'homme ? Eh bien, l'homme, il est égoïste, un peu. En tout cas, individualiste. L'homme pense d'abord à lui avant l'intérêt commun. Et surtout, l'homme ne change pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera un peu le problème, vous enlevez les lois, qu'est-ce qu'on a ? Bon, en gros, on a des hommes qui se font la guerre. Ça, c'est la première vision. Bon, on va voir qu'elle va nous emmener très loin. La deuxième, ce serait le contraire. Justement, une vision qu'on appellera entre nous, encore une fois, non pas en suivant la terminologie de la philo officielle, mais une vision idéaliste. C'est-à-dire qu'il y a l'homme tel qu'il est et l'homme tel qu'il pourrait être. L'idéalisme, c'est celui qui se dit « D'accord, on en est là, mais il se pourrait que les choses soient autrement. Peut-être que l'homme peut apprendre. Peut-être que l'homme peut changer. L'homme, pour l'instant, est une crapule, certes. Mais peut-être qu'il est aussi ce que les lois, ce que la justice, le font devenir. Vous transformez les lois, vous amenez une autre forme de justice, vous améliorez l'homme. » Alors le problème, c'est que ces deux terrains sont absolument irréconciliables. Ou bien vous avez une vision réaliste qui dit « l'homme ne changera pas », ou bien vous avez une vision idéaliste qui dit « l'homme peut changer ». Il n'est pas encore merveilleux, mais il est en voie de. En tout cas, il est potentiellement améliorable. Et d'ailleurs, pour donner une illustration très claire, on verra qu'en fait, cette grille de lecture peut se lire de partout, et notamment dans notre vision générale du contre-modèle politique. Alors avant de voir les modèles politiques et les modèles de justice, on va voir les deux contre-modèles politiques qui les fondent. Un contre-modèle politique, c'est simplement qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas dans une vie politique ? Eh bien, on aurait, vous le voyez immédiatement, l'anarchie. Sauf que là encore, l'anarchie se comprend en deux sens. Ou bien vous considérez que l'anarchie se lit d'une façon négative. En général, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Pour nous, l'anarchie, c'est d'abord, il n'y a plus de loi, les hommes font ce qu'ils veulent, ils pillent, ils saccagent, ils s'occupent à toutes les exactions qu'ils veulent. Bref, c'est l'horreur. Donc ça, c'est l'anarchie horreur. C'est la vision réaliste. Mais l'anarchie, normalement, c'est pas censé être ça. L'anarchie, ça peut être aussi, et c'est bien ce que veulent les anarchistes, hein, ceux qui défilent dans la rue, ils veulent pas le pays à feu et à sang. Ils veulent se passer des lois parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, l'homme peut suffisamment devenir raisonnable pour n'en avoir plus besoin. Et là, on est dans une anarchie positive. Contre-modèle aussi, puisque ça voudrait dire que les lois, c'est tant que l'homme en a besoin, mais si un jour on réussit à l'amener vers plus de conscience et plus de raison, il pourra s'en passer. Ça va ou pas pour l'instant ? Bon. Réalisme, sans les lois, c'est l'horreur. Donc ça, c'est vision de l'anarchie terreur. Idéalisme, il faut qu'à terme, un jour, l'homme devienne suffisamment raisonnable pour qu'il puisse se passer des lois. Ça n'arrivera peut-être jamais, mais à ce moment-là, c'est ce qu'on appellerait avec Kant un idéal régulateur. C'est-à-dire quelque chose qui nous sert de repère et qui nous donne du sens. Donc anarchie-terreur, anarchie-utopie pourraient être les deux contre-modèles politiques. Oui, c'est parce que ce n'est pas de la politique, c'est quand même de l'anarchie. Et à ces deux conceptions de l'homme, on pourrait faire correspondre deux, voire trois conceptions de la justice. Alors sur quoi est-ce qu'on pourrait fonder la justice avec cette grille de lecture ? Première hypothèse, l'hypothèse réaliste. Vous avez compris, on fera toujours ça, réaliste-idéaliste. Réaliste, on verra ça dans une première partie, il n'y a pas de juste et d'injuste absolu. Il n'y a pas de juste en soi. Sera considéré comme juste ce que le souverain, l'autorité des lois, les conventions humaines, ou peut-être même la répartition des forces et des pouvoirs, eh bien, fera apparaître comme juste. C'est-à-dire que les hommes étant par nature égoïstes, il serait naïf de prendre pour modèle un idéal de justice absolue qui en fait serait totalement inapplicable. Donc du point de vue réaliste, il n'y a pas à regarder ce que pourrait être une justice absolue, de toute façon ça ne marcherait pas. Donc à ce moment-là, la justice, c'est d'abord ce qui découle d'une autorité qu'il a posée. Et on verra que même au niveau du fondement du droit contemporain, chez Hans Kelsen par exemple, il y a eu une conférence très peu de temps par un de mes collègues, eh bien on peut retrouver cette idée. La deuxième hypothèse, qui sera bien sûr notre deuxième partie, c'est l'idée qu'au contraire, la justice, donc c'est l'hypothèse idéaliste cette fois-ci, la justice doit être fondée en raison, doit être fondée sur la raison ou sur la sagesse. Donc il y a un idéal de justice. Il faut alors pour cela supposer que, certes, tous les hommes ne sont pas raisonnables, hein, il ne faut pas non plus s'aveugler, mais il suffirait que quelques-uns le soient pour décider des lois justes. Le problème sera comment les reconnaître. Comment faire en sorte que le législateur, donc celui qui décide des lois, soit porté vers l'intérêt général plutôt que vers ses intérêts propres. Mais à ce moment-là, on admet quand même que c'est possible. On verra aussi les problèmes qu'une telle analyse pourrait amener. Parce que la menace dans ces cas-là, pour la menace dans le modèle réaliste, c'est le côté des abusés. La menace dans le modèle idéaliste, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler la dictature éclairée. Des gens qui veulent faire le bien au nom d'un idéal de justice et qui les l'imposent par leurs propres critères. On a déjà ça chez Platon. On peut l'avoir finalement, on le verra, d'une façon un peu détournée, je vais dire une horreur, chez Rousseau, avec le concept de volonté générale. C'est en tout cas ce qu'on examinera. Ça, c'est, je parle des risques, hein, je ne dis pas que Rousseau, c'est de la dictature éclairée. La troisième hypothèse, alors là, sera complètement ancrée sur l'idée de justice. La troisième hypothèse, ce sera l'idée que peu importe au fond qu'aucune loi ne puisse être dite absolument juste, à condition qu'on ait des principes objectifs de justice. C'est-à-dire qu'à partir de Rousseau, on va essayer de développer un débat moderne, contemporain même, on peut dire, le débat de Rawls contre Nozick. Oui, alors vous ne savez pas forcément comment ça s'écrit. Alors Rawls, si, R-A-W-L-S, parce qu'il y en a qui prennent des notes, je me permets de le dire. Nozick, c'est Robert Nozick, N-O-Z-I-C-K. Et là, vous aurez deux modèles qui montrent que ces débats-là sont vraiment nos débats actuels, d'aujourd'hui. Mais là, on ancrera plutôt notre partie sur la question de la justice sociale. En gros, ce sera trouver des fondements objectifs qui permettent de trouver un équilibre entre l'égalité et la liberté. C'est le plus dur problème possible. Trop d'égalité se fait aux dépens de la liberté, confère le communisme, par exemple, entre autres. Et bien sûr, trop de liberté, c'est aux dépens de l'égalité, confère le libéralisme effréné. Ou confère moi. Donc, l'idée sera d'analyser l'ensemble de la vie politique à travers ce concept d'idéalisme et de réalisme. Alors attention, on le verra, n'allez pas croire que par exemple les Lumières c'est du côté d'idéalisme. Ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'il y en a des deux côtés. Et qu'en fait la question est peut-être un peu plus complexe, pas complexe à comprendre, mais finalement à des ramifications qu'on ne soupçonnait pas forcément. Alors, comme là je blablate parce que c'était mon introduction, on rentre dans le vif du sujet directement, parce que résoudre tous les problèmes politiques en 1h15, ça suppose de ne pas faire une introduction trop longue. Donc on arrive d'emblée, on met les pieds dans le premier modèle, une conception réaliste de la vie politique et notamment de la justice, c'est-à-dire qu'on va essayer de fonder la justice d'abord sur la force, l'autorité des lois, ou la répartition des pouvoirs. Mais on va voir que c'est un fondement tout à fait légitime. Donc, on pourrait d'abord être tenté de fonder la justice, je répète, sur la force, l'autorité des lois ou la répartition des pouvoirs. Alors, pour comprendre, parce que certains, bien sûr, peuvent être sceptiques en se disant « Mais pourquoi, diable, aurions-nous cette vision de l'homme si noire ?» Une vision qui se dit réaliste ne veut pas dire que c'est la vision réelle, hein, bien sûr. Réaliste, c'est au sens où on fait valoir ce qu'on croit être le fait sur le droit. C'est-à-dire, dans les faits, voilà ce qu'on constate. Que serait l'homme si on lui enlève les lois ? C'est ça toujours la question. Qu'est-ce que l'homme si on lui enlève les lois ? Vous avez les hommes, vous enlevez les lois, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans la vision réaliste, c'est pas joli joli. Cette vision réaliste, on l'a chez Platon qui pourtant veut dire exactement le contraire. Platon sait très bien ce qu'il dit, mais il fait dire, dans la bouche de, enfin, il met dans la bouche de Glaucon, Glaucon étant l'un des personnages de son dialogue, du dialogue de la République, eh bien il fait dire à Glaucon des choses terribles, c'est-à-dire qu'il lui fait raconter le mythe de Gigès. C'est la seule fois où Glaucon dit d'ailleurs des choses intelligentes. Glaucon, c'est un des personnages complètement secondaires en général dans la littérature de Platon, puisqu'il fait que dire, comme à peu près tous les interlocuteurs de Socrate, « Oui, oui, tu as raison, bien sûr, évidemment, etc. » Mais là, pour une fois, il dit quelque chose d'extrêmement fort, et même tellement fort que dans un sens, c'est même ce que dit Socrate, qui lui représente l'idéal de justice, qui semble être mis un peu en danger. Que nous dit Glaucon ? Ben Glaucon prend une hypothèse qui finalement sera reprise, parce que même pillée par Tolkien, j'essaie de provoquer un peu une réaction de votre part, mais Tolkien dans le Seigneur des Anneaux ne fera que reprendre ce mythe. Glaucon évoque le mythe de l'anneau de Gigès, qu'on peut appeler Gigès si on est un helléniste, mais qu'on appellera Gigès parce qu'on aime bien parler français. Donc, le mythe est le suivant, et vous allez voir qu'il est terrible. Imaginons que cet anneau, je ne vous fais pas toute l'histoire, elle est longue, mais l'histoire est la suivante, bon, avant que j'imagine cet anneau, parce qu'on fera une expérience de pensée après. L'histoire est la suivante, un berger est avec ses moutons, etc., puis d'un seul coup il y a un tremblement de terre, peu importe, et il trouve à l'intérieur du trou béant qui s'ouvre devant ses yeux, un cheval d'airain dans lequel il y a un géant qui tient au doigt un anneau. Tout cela n'était pas intéressant jusqu'à l'anneau. Cet anneau, il le prend avec lui, parce qu'il est très joli, et il va à la réunion annuelle des bergers. Mais à la réunion annuelle des bergers, ben, il s'ennuie, comme toutes les réunions annuelles des bergers, pas passionnant. Et donc, il joue avec ce qu'on appelle le chaton de l'anneau. C'est là, je crois, où on sertit l'anneau. Bon, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qu'il gratte, et boum, il devient invisible. Je vous ai dit que Tolkien avait tout au pied. Bon, il rejoue avec sa bague, et boum, il redevient visible. Bon, il fait ça deux, trois fois pour s'amuser, et puis il se rend compte que ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, l'histoire là est très bavarde au début pour nous dire comment il trouve l'anneau, pas très bien pour comment il s'y prend après. Mais il se trouve qu'avec ce pouvoir extraordinaire, puisqu'il peut faire un peu tout ce qu'il veut, quand vous avez le pouvoir d'être invisible, vous avez une sorte de pouvoir absolu. Mais grâce à cet anneau, eh bien, il va en profiter pour séduire la reine. Je ne sais pas trop ce que le pouvoir d'invisibilité a de sexy, mais pourquoi pas. Tuer le roi, prendre sa place et devenir l'homme le plus puissant. Alors, attention, c'est pas juste un mythe. En fait, c'est une hypothèse terrible. Et quand j'ai commencé à la mettre dans votre esprit, vous allez voir à quel point ce mythe est extraordinaire. Imaginons que cet anneau, que j'ai là, bon, c'est mon alliance, hein, cet anneau serve à se rendre invisible. Faites l'expérience de penser, que feriez-vous ? Que feriez-vous avec cet anneau ? Alors évidemment, dans l'hypothèse de Tolkien qui reprend la même, si vous êtes un sage, qu'est-ce que vous faites ? Non pas le bien avec cet anneau, vous vous en débarrassez. Vous en débarrassez parce qu'il est possible de faire le mal, et surtout, en vous en débarrassant, vous mettez vous-même à l'abri de la tentation. Vous avez un anneau qui vous rend invisible, ça vous donne les pouvoirs absolus. En étant invisible, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez d'abord jouer avec. Vous allez essayer d'expérimenter votre pouvoir d'une façon complètement minime au début. Vous allez faire des blagues. Un type, vous l'aimez pas, pouf, vous allez enlever la chaise. Vous en foutez, vous êtes invisible. Il se casse la figure, on rigole. Puis après, vous allez faire des trucs moins drôles. C'est-à-dire que vous allez voler des trucs à la FNAC, comme moi. Enfin non, pardon, moi en tout cas, je le ferai. Pas, parce que je suis quelqu'un de sage, mais vous, oui. Bien, donc vous allez voler des trucs à la FNAC juste pour voir. Bon, très bien. Et puis d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous n'avez absolument aucune limite possible. Vous pouvez assassiner vos ennemis. Vous pouvez usurper le pouvoir de qui vous voulez. Finalement, un conte moderne de Gigès, c'est Mesmer, l'hypnotiseur de spectacle, qui a un pouvoir absolu sur tout le monde. Il fait comme ça, l'autre tombe, il lui fait faire ce qu'il veut. Bon. Ça, l'hypnotiseur qui a ce pouvoir absolu qui le rend maître de tout le monde. Alors, la question est la suivante. On vous donne cet anneau. Est-ce que vous aurez le courage de vous en débarrasser ? Qui aurait le courage de s'en débarrasser ? Levez pas la main. En fait, ce que nous dit Glaucon, c'est personne. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez quelque chose qui vous donne le pouvoir absolu, une impunité totale, et à la seule condition, il y a deux conditions. L'impunité totale, deuxième condition, les autres ne le peuvent pas aussi. Eh bien oui, si tout le monde a un anneau et que tout le monde peut se rendre invisible à volonté, ça annule votre pouvoir. Mais si les autres n'ont pas votre pouvoir et que vous, vous ne pouvez pas être puni, eh bien, nous dit Glaucon, il n'y aurait plus de différence entre le juste et l'injuste. Même le juste serait tellement tenté qu'il deviendrait injuste. C'est-à-dire, le juste au début, il veut faire le bien, puis un jour, il se dira, mais quand même, je vois que si je fais un peu le mal, ça ne change rien. À moins, bien sûr, ça c'est l'hypothèse de Platon, qu'il y ait des hommes absolument justes, absolument. Mais, soyons sérieux, vous auriez cet anneau, est-ce que vous seriez vous-même juste ? Bah, le réaliste dirait non. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où vous seriez tenté, et forcément un moment où ça vous échapperait. Voilà déjà la première hypothèse qu'on trouve déjà sous la plume de Platon, et qui va être complètement reprise par Hobbes. Que va nous dire Hobbes ? Eh bien, Hobbes, il va carrément appliquer ça, finalement, à un modèle politique. Que serait l'homme si on lui enlève les lois ? Reprenons notre hypothèse. Vous allez voir comment on va être vite conduit à la justice et à l'injustice. On prend l'homme, tel qu'il est, on lui enlève les lois, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Hobbes va dire, dans ces cas-là, on a ce qu'on appellerait un état de nature. Cet état n'est pas complètement, on dit souvent que c'est qu'une hypothèse, c'est vrai, il n'y a jamais eu d'état totalement de nature. Mais Hobbes, ce qu'il voit, il vit au moment où il y a Cromwell et les têtes rondes. Il vit un moment où l'Angleterre est à feu et à sang, et il voit une guerre civile atroce et des gens qui s'égorgent sous ses fenêtres. Alors Hobbes, il dit, ben là, on a vraiment une vision de l'homme quand on lui enlève les lois. Quand il n'y a plus d'autorité qui s'applique, qu'est-ce qu'on a ? On a des hommes qui se font la guerre. Alors imaginons qu'on enlève les lois, qu'est-ce qu'on a ? On a simplement une seule chose qui prime, on a une liberté absolue. Donc ça, c'est youhou. Vous allez voir que le youhou dure 1 minute 50. Youhou, je suis absolument libre, je n'ai pas de loi. C'est ce à quoi aspire n'importe quel élève quand on lui parle de ce truc. Ils se disent d'emblée, ah c'est cool l'état de nature, il n'y a pas de loi. Oui, mais s'il n'y a pas de loi, ça veut dire que la seule mesure, ce qui fait la différence, c'est la force. Ça veut dire que celui qui a le désir et qui a le pouvoir, la force physique d'obtenir ce qu'il veut, l'obtient. Ça veut dire aussi que même l'homme le plus fort du monde, je ne sais pas qui est l'homme actuellement le plus fort du monde, quand j'étais petit c'était Mr. T. Bon, Mr. T c'était un gros black, hyper costaud, etc. Bon, mais même l'homme le plus fort du monde, même Mr. T, il y a un moment où il va devoir dormir. Il peut y avoir des coalitions. Vous pouvez vous regrouper ensemble et aller tuer vos ennemis. Bref, dans un état de nature, c'est-à-dire un état sans loi, n'importe qui peut devenir une menace pour n'importe qui. Mais alors attention, ce que va dire Hobbes, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, on dit Hobbes, il dit « tous les hommes sont égoïstes, donc sans loi, c'est juste la guerre de tous contre tous ». C'est vrai, mais Hobbes ne dit pas vraiment ça. Il ne dit pas « tous les hommes sont égoïstes ». Il dit « il suffirait, sans les lois, que quelques-uns le soient, pas tous, hein, quelques-uns, pour qu'automatiquement tout le monde soit sur la défensive. » Cette salle, par exemple, imaginons. On est dans l'état de nature, il n'y a pas de loi. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, individuellement, des gens très bien. Mais il suffirait qu'il y ait quelqu'un de pas bien du tout dans cette salle pour que tout le monde soit obligé d'être sur le qui-vive. État de nature, il n'y a pas de loi. Vous décidez d'être quelqu'un de bien. Vous faites votre petit jardin potager. Vous faites votre petite maison, vous y passez du temps, du soin. Puis il y a un type, mais vous voulez embêter personne. Mais il y a un type qui arrive et qui se dit « j'ai pas envie de m'ennuyer à faire une maison, je vais plutôt lui piquer la sienne ». Vous faites piquer une fois votre maison, vous ne faites pas piquer deux fois. La deuxième fois, si vous refaites une maison, vous êtes armé. Voilà. L'état de nature, c'est ça. C'est le moment où la vigilance est constante, l'insécurité permanente. Il n'y a pas de loi, il y a une menace perpétuelle qui peut venir de n'importe qui. Sans les lois, tout le monde peut être potentiellement une menace, mais ça suffit à rendre la vie insupportable. Donc que va nous dire Hobbes ? Eh bien, le fondement de l'État, c'est ça. Sans les lois, la menace est permanente, l'insécurité est totale, donc les hommes vont pactiser, ils vont faire un pacte, pas un contrat, un pacte. La différence entre un pacte et un contrat, on verra dans une toute autre vision que Rousseau dira un contrat social, mais là on parle d'un pacte. Un pacte, c'est juste ce qui fait la paix. Souvenez-vous, les cow-boys, les indiens, ils font des pactes, ils ne font pas des contrats. Le contrat, c'est donnant-donnant. Là, ça ne va pas être donnant-donnant, ça va être on va arrêter cette guerre de tous contre tous, on va essayer de trouver un moyen d'en sortir. Comment on trouve un moyen d'en sortir ? On élit quelqu'un, peu importe qui c'est, qui deviendra un souverain absolu, c'est-à-dire hors contrat. Hobbes nous dit, l'état de guerre de tous contre tous est le pire état possible, la menace peut venir de n'importe qui, il faut que tout le monde se mette d'accord pour échanger une partie de sa liberté naturelle contre la sécurité. Comment obtient-on la sécurité ? Ben, si on met tous les pouvoirs concentrés dans une personne, le souverain. Mais quand on a une personne comme le souverain qui est élu, à ce moment-là, elle doit être hors contrat. Elle doit être en dehors du pacte. Parce que si elle dépend, nous dit Hobbes, du peuple, eh bien évidemment, ce sera exactement comme une guerre de tous contre tous. Ça veut dire que ce sera juste le plus fort actuellement. Mais il y aura toujours un type qui va dire « mais moi, je suis plus fort que le souverain. Je vais le renverser et je vais devenir souverain à la place du souverain. » Donc il faut qu'il soit hors contrat au sens où on n'essaye jamais de l'attaquer, au sens où il ne peut même pas être envisagé de renverser le souverain. Sinon, on risque à chaque fois de reconduire la guerre de tous contre tous et de fragiliser le peuple. Donc qu'est-ce qu'on a chez Hobbes ? Un premier fondement de l'État, mais qui suppose aussi une forme d'absolutisme. La seule façon d'être sûr d'échapper à l'état de nature qui est la pire des situations, c'est d'élire quelqu'un qu'on ne puisse pas renverser. Plus vous multipliez les instances du pouvoir, plus les hommes se feront la guerre entre eux. C'est ce que dit Hobbes. Vous en mettez qu'un, il ne se fera pas la guerre à lui-même. Et si le peuple peut se dire « je peux renverser celui-ci », c'est la fin de tout. En gros, c'est le contraire du président normal. Le président normal, pourquoi est-ce que personne ne le prend au sérieux ? Parce que tout le monde se dit « mais s'il est normal, moi aussi je suis normal, mais je suis mieux que lui ». Là, c'est celui qui est indétrônable. Alors le problème, c'est qu'effectivement, si vous mettez la justice entre les mains d'une personne, parce que du coup, ce que va décider le souverain, qui quand même permet un état de paix, eh bien, ce que va décider le souverain sera considéré comme juste. C'est-à-dire que dans l'état de nature, il n'y a pas de juste et d'injuste, il y a une guerre perpétuelle. À partir du moment où il y a un souverain, il y a des lois, et ce que disent les lois du souverain sera ce qui sera considéré comme juste. Donc d'où vient la justice dans ce premier fondement ? De l'édiction des lois. D'où viennent les lois ? Du pouvoir souverain. Mais il y a quand même une réciprocité quand même quelque part. C'est qu'on a un souverain, on a échangé une partie de notre liberté naturelle contre de la sécurité. Et donc on a une certaine forme de paix. Mais tout de suite, vous allez me dire, mais moi j'ai pas envie de croire en ça, parce que j'ai toujours été biberonné à la démocratie. Ça m'embête un petit peu qu'on fonde la politique sur la souveraineté absolue. Et je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, ça marche pas très bien. Parce que ce que vont vite remarquer d'autres philosophes de la lignée réaliste, c'est que du moment que vous mettez tous les pouvoirs sur une personne, il y a forcément un moment où cette personne va abuser de son pouvoir, exactement comme dans l'anneau de Gigès. Et d'une, et de deux, il y a forcément un moment où ça va craquer de partout, où le peuple va se soulever. Parce qu'il ne faut pas qu'on obéisse à une personne, il faut qu'on obéisse à des institutions. Il faut qu'on obéisse à des lois. Donc on est toujours dans le même modèle, vous allez voir. Mais on va l'affiner. Ce que dit Hobbes, c'est qu'il faut obéir à une personne qui incarne les lois. Non. Nous dira d'abord Spinoza, mais on va surtout voir Montesquieu. Il faut obéir à des lois que représente une personne, éventuellement, qu'incarne une personne, que garantit une personne. Mais ce sont les lois, c'est la constitution d'un État qui va être à l'origine du pouvoir. Et il faut d'ailleurs que cette constitution soit juste. Alors Montesquieu est intéressant parce que souvent on se trompe, on le place dans l'idéalisme, parce qu'on a l'impression que c'est un philosophe des Lumières, c'est vrai, c'en est un. Et du coup on se dit, philosophe des Lumières égale, il avait une belle vision de l'humanité, c'est quelqu'un qui croyait en l'homme, en la possibilité de progrès, pas du tout. Pas du tout. Montesquieu, déjà, il n'était pas pour la démocratie, du tout, mais il était quand même pour une forme de république, c'est-à-dire des lois qui sont en vue du bien du peuple. Mais ce qu'il va surtout dire, c'est que pour que le pouvoir politique soit fondé, il faut faire en sorte, et ça, ça va être son idée géniale, enfin, c'est pas la sienne, mais on le prête à Montesquieu en général, il va avoir cette formule, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut trouver la même chose que ce que dit Hobbes, les hommes sont égoïstes, même constat, en tout cas il y en a, mais il va falloir, c'est super malin, retourner l'égoïsme contre lui-même. Comment peut-on améliorer la situation des hommes ? Comment peut-on amener plus de justice dans un univers réaliste ? Eh bien, en exploitant l'égoïsme des hommes. Et comment exploite-t-on l'égoïsme des hommes ? En séparant les pouvoirs. Ce que n'avait pas vu Hobbes, c'est qu'on ne fragilise pas, on renforce quand on sépare les pouvoirs. Hobbes, lui, se disait, les hommes vont se faire la guerre. Et du coup, on va reconduire l'état de nature si on sépare les pouvoirs. Mais pas du tout, nous dit Montesquieu, c'est bien le contraire. Qu'est-ce qui va se passer si vous séparez les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires ? Eh bien, chacun va commencer à regarder ce que fait l'autre. Non pas pour améliorer la situation du peuple, des gens, pas du tout, par pur égoïsme. Le pouvoir législatif va dire, attendez, là, il y a trop de pouvoir du côté de l'exécutif, ils n'écoutent pas les lois, ils ne respectent pas les lois, il faut les dénoncer. Si c'est la même personne qui incarne l'exécutif, le judiciaire, le législatif, le roi par exemple absolu, il décide, lui je vais le punir, lui je vais pas le punir, j'ai le droit de faire ce que je veux, au niveau judiciaire je suis le roi. Tiens, je vais pas respecter une loi que j'ai moi-même édictée, de toute façon je m'en fiche, c'est moi qui les édicte. Bon, dans ces cas-là, il n'y a pas de contestation possible. Mais si vous séparez les pouvoirs, chacun cherchant à avoir le plus de pouvoir possible va commencer à dénoncer les abus du voisin. Voyez, c'est comme la main invisible d'Adam Smith. La main invisible d'Adam Smith, c'est un principe de base d'économie, c'est que la concurrence finalement assainit le marché. C'est-à-dire que vous avez un seul boulanger dans un village, tout le monde est obligé d'aller le voir. Vous en avez deux, il y en a un qui fait du pain dégueulasse et hors de prix, de toute façon, il n'y a pas d'autre boulanger, donc vous y allez quand même. Mais si un autre boulanger arrive et commence à faire du pain dégueulasse, mais beaucoup moins cher, et bien tout le monde va aller dans le premier. Et puis il y en a un troisième qui arrive et qui fait du pain à peine plus cher, mais bien meilleur, les gens vont commencer, voilà, et puis, etc., etc. Donc en fait, au final, tout le monde va faire un effort, et ça va être au bénéfice de tous. C'est exactement ce que va exploiter Montesquieu. Ce même problème. Les hommes sont égoïstes, parfait. Eh bien, faisons en sorte que ça assainisse la politique. Chacun va aspirer à plus de pouvoir, va regarder son voisin, va dénoncer les abus, et au final, tout le monde sera heureux. Est-ce que c'est pas ce qui se passe un peu aujourd'hui ? Si. Cahuzac, ça marche pas très bien son truc, il doit dénoncer les injustices, il agit d'une façon pas très juste. Scandale absolu, tout le monde se retourne contre lui, on dénonce les abus. Parce qu'il y a aussi d'autres contre-pouvoirs, hein. Ça aussi ça va assainir la vie politique. On a les médias qui par exemple, eux sont pas toujours des saints hein, bien sûr, mais les médias vont dénoncer les abus. Tiens, François Hollande, son gouvernement en tout cas, a décidé de faire passer une loi en s'abritant derrière une autre loi pour éviter de la faire voter. Bon, mais faut pas qu'il fasse ça trop souvent, parce que là on montre qu'on n'aime pas beaucoup ça. D'un autre côté, François Hollande a pu dire déjà aux médias ce qu'il pensait de quand lui-même est allé flirter avec une actrice et que les médias ont commencé à s'en servir pour faire des articles. Bon. Dans ces cas-là, tout le monde se contrôle. Tout le monde est un peu jaloux du pouvoir du voisin. Mais du même coup, ça assainit. Voilà ce que va se dire Montesquieu. Donc même d'une façon, même en gardant cette idée que l'homme est fondamentalement égoïste, on peut tabler sur plus de justice en exploitant leurs propres faiblesses. Alors, ça veut dire aussi, cela dit, qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a une justice absolue. Des lois absolument justes. Non, il y a des lois préférables. Mais de toute façon, Hans Kelsen nous le disait il n'y a pas si longtemps que ça, qu'est-ce que c'est finalement que serait une norme absolue ? Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'une norme va toujours être fondée sur une autre norme, qui va être elle-même fondée sur une norme. Et en fait, il pourrait y avoir une régression à l'infini, mais il y a un moment où il y a une convention. On s'entend sur une norme. Ce que va dire Hans Kelsen, c'est que finalement, c'est bien l'autorité des lois qui fondent la nature même de la justice. En tout cas, voilà, ça c'est aussi quelque chose que disait plus simplement Pascal. Hein. Pascal dans les Pensées, dans un très beau texte que j'ai pris, je ne sais pas si j'ai le temps de le lire. Allez, lisons Pascal, c'est très court et c'est toujours incroyablement percutant. Justice, force. Vous le connaissez sûrement, mais c'est tellement beau. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Aussi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, et c'est là, si vous n'avez rien compris au reste, retenez au moins cette phrase, et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. C'est-à-dire qu'au final, ce que semble nous dire Pascal, c'est qu'il est très dur de faire triompher simplement la justice en tant que telle. En revanche, c'est très facile de faire triompher la force. Essayons de faire en sorte que la force soit le plus juste possible. À défaut de faire que la justice soit la plus forte possible. Parce que si les hommes ne sont pas foncièrement des êtres de raison, eh bien, vous avez beau leur présenter ce qui est le plus juste, c'est pas ce qu'ils vont suivre. Ce qu'ils vont suivre, c'est ce qui leur est profitable. Donc voilà une façon de fonder le politique et de fonder la justice. Les hommes livrés à eux-mêmes, sans loi, sont dans une situation infernale. Il faut des lois, ça sera toujours mieux que pas de loi. Ces lois ne peuvent pas être absolument justes, mais faisons au moins en sorte que leur propre égoïsme finisse par s'annuler vers plus de justice. Mais au fond, c'est toujours l'idée que si un jour vous enlevez les lois, vous avez de nouveau les mêmes hommes qu'au début. Les hommes sont meilleurs tant qu'ils sont sous des lois. Vous enlevez les lois, ils redeviennent des crapules. Tant que vous n'avez pas cet anneau, n'essayez pas de me piquer cet anneau, il n'a aucun pouvoir, c'était un exemple. Mais tant que vous n'avez pas cet anneau que j'ai entre les mains, vous êtes des gens bien. Et puis le jour où vous avez cet anneau, pouf, vous devenez des gens moins bien. Et si on vous renlève ces anneaux, oh bah vous redevenez des gens bien. C'est un peu ça les lois, dans cette optique-là. Évidemment, ça nous pose problème. Cette vision est très noire, bon, ça c'est pas le problème, parce qu'on pourrait se dire, c'est bien un peu comme ça que ça marche. Les hommes n'ont jamais vraiment changé, ils ont toujours fait la guerre pour d'autres raisons, pour d'autres motifs, sur d'autres lieux, en d'autres temps, mais ils n'ont pas beaucoup évolué. Quand c'est pas tel conflit, c'est tel autre, au fond, qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'on est devenu meilleur ? C'est pas sûr. Mais Platon a quand même raison de dire la chose suivante. Platon, il va nous mettre en garde contre ce point de vue. Il va dire que ça, c'est l'illusion de ce qu'on a appelé, nous, en tout cas, la position réaliste. C'est-à-dire que la société est comme une hydre. Vous savez, cette espèce d'animal à plusieurs têtes, à plein de têtes. Chaque fois que vous tranchez une tête de l'hydre, il y en a deux qui poussent. Eh bien, c'est pareil avec les lois. Les lois, dans une cité corrompue, sont toujours édictées, mais à chaque fois, eh bien, elles redoublent l'injustice. C'est-à-dire que les lois vont compenser d'autres lois, mais au final, elles seront toujours injustes. Si les hommes sont injustes à l'origine, leurs lois seront le reflet de leur injustice. Donc ce que va nous dire Platon, mais on va voir que ce n'est pas du tout idiot, c'est que vous avez des hommes corrompus, vous avez une société corrompue. Et donc ce n'est pas la peine d'essayer de rajouter des lois pour la rendre moins méchante. Si les hommes sont corrompus, ça ne changera jamais rien au fond. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit Platon ? Éduquer les hommes. Et là on passe à la deuxième lecture possible. La vision idéaliste. C'est-à-dire l'idée simplement que l'homme peut changer. Si on lui met des joies, lapsus révélateur de mon optimisme naturel, si on lui met des lois justes, l'homme va s'améliorer et deviendra plus juste. Parce que l'homme, au fond, il est raisonnable, il attend que une étincelle pour finalement s'adonner à la raison. Donc là, on va maintenant fonder la justice tout autrement, après l'avoir fondée sur l'autorité des lois, c'est-à-dire tout ce que le souverain décide est appelé justice, et bien maintenant on va la fonder sur la sagesse et la raison. Mais on va voir que cet idéalisme peut très vite avoir des échos totalitaires. Alors déjà, on va reprendre Platon, parce qu'on a été un peu méchant, on a donné la parole à Glaucon, alors que c'est plutôt à Socrate que Platon aurait souhaité qu'on donne la parole. On va voir Platon, on revient chez les Grecs, on va repasser chez les classiques ou chez les modernes, et puis on va aller vers les contemporains après. Alors pour Platon, justement, évidemment, il est raisonnable de choisir pour gouverner les autres les meilleurs des hommes. Alors est-ce que c'est ce qui se passe dans notre société ? Bon, c'est ce qu'on va être amené à examiner à l'aune du schéma de Platon. Qu'on va voir, il est très simple. Le schéma de Platon, c'est incroyablement simple. Il dit, alors ça c'est un peu la conception grecque, mais ça reste valable. Hein. Finalement, ce qu'il constate, c'est qu'on peut faire une sorte de... comment on pourrait appeler ça, de mise en rapport entre l'homme, sa nature, et la société tout entière. Il y a trois instances qui gouvernent l'homme, nous dit Platon. La tête, le cœur, le ventre. Le ventre, c'est le lieu des appétits, des désirs. On a ça, tous les trois sont nécessaires. Il faut juste trouver chaque fois sa place. Les appétits, les passions, etc., ça c'est le ventre, c'est le désir. Le cœur, c'est le courage. La tête, c'est la raison. Si vous aviez qu'une raison sans désir, vous ne feriez pas grand-chose de votre vie. Parce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui vous pousse. Le désir, c'est aussi ce qui vous pousse. Si vous aviez que du courage sans désir, sans raison, alors soit vous seriez complètement idiot, un courage qui consiste à foncer dans le danger, mais vous vivriez 1 minute 50, ou alors vous seriez complètement avec des désirs démesurés, puisque vous auriez le courage et le cœur, donc ça veut dire que vous auriez la force et le courage d'accomplir tous vos désirs. Mais là, ça ne ferait pas de vous des gens bien. Bref, il faut que chaque étage soit à sa place pour l'homme. Un homme équilibré, c'est quelqu'un qui a des désirs, le courage de les gouverner par la raison. Il a des désirs, mais il les gouverne. Il a le courage de les gouverner par la raison. Et bien la cité, c'est pareil. Au fond, la cité, on pourrait reconnaître trois types d'hommes. Des hommes qui fonctionnent d'abord avec leur raison. C'est-à-dire que pour eux, c'est la raison qui gouverne. Ils ont le courage, ils ont les désirs, mais c'est la raison qui gouverne. Ça, c'est des hommes d'or, c'est les meilleurs. Évidemment, Platon est philosophe, il se juge lui-même un animal raisonnable. Enfin, ça c'est l'expression d'Aristote, mais peu importe. Donc évidemment, pour lui, la philosophie doit être roi, reine. Donc il est pour le philosophe roi. Donc la raison, c'est la tête. Les hommes d'argent, c'est les soldats, c'est le courage. Pour eux, c'est le courage d'abord, mais ils ont quand même de la raison, et ils ont des désirs, mais c'est le courage. Et puis les hommes d'airain, c'est les artisans. Il en faut, mais pour Platon, c'est pas eux qui doivent évidemment gouverner. Alors il dit, tout doit être à sa place, c'est-à-dire que si vous laissez... Il y a des cités, en revanche, qui laissent les commandes aux hommes d'argent, par exemple. Ça, c'est les cités qui sont basées d'abord sur la guerre. Les cités qui mettent La raison subordonnée, pas, enfin bref, sous la tutelle du courage, c'est les cités guerrières, les soldats, avec une force armée qui font peur, etc. Bon, ça, c'est le courage. Vous avez, bien sûr, les artisans. Alors, les cités gouvernées par les artisans, c'est quoi ? C'est celles qui sont gouvernées par les désirs, par le commerce, les sociétés de marchands. C'est les pires. Les sociétés de marchands, c'est les pires pour Platon. Évidemment, les meilleures, c'est celles qui, évidemment, sont gouvernées par la raison, par des hommes sages, qui sont justes, qui veulent des lois justes, qui ne veulent pas le profit, qui ne veulent pas la guerre. Si on réfléchit, quel est notre type de société dans ce schéma-là ? Évidemment, vous l'aurez compris, pas difficile de se poser la question bien longtemps, si c'est l'économie qui gouverne la politique, c'est juste la fin de tout, pour Platon. Voilà, on est dans une société de marchands, évidemment. Est-ce que c'est la raison ? Non ! On ne peut plus rien faire, c'est l'économie qui nous entrave. C'est ce que disent parfois les discours politiques. C'est pas de ma faute. Aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement. Les lois de l'économie sont telles que on voudrait bien, mais on peut pas. Bon, mais pour Platon, c'est juste l'horreur absolue lorsque c'est pas le sage qui gouverne. Mais en même temps, le sage qui gouverne, ça pose problème. Ça pose trois problèmes. Je vais essayer d'aller vite là-dessus, puisque c'est pas le fond de mon propos. Ça pose trois problèmes. D'abord, ça veut dire qu'on suppose, ça c'est vraiment idéaliste, qu'il y a des hommes sages. C'est-à-dire que vous leur mettez même un anneau de la tentation, ils ne cèdent pas. Ils le jettent. Ils sont vraiment sages. Deuxièmement, c'est que ces hommes sages, ce n'est pas forcément justement ceux qui ont envie de gouverner. On pourrait imaginer, soyons fous, que ceux qui ont envie de gouverner, ce n'est justement pas ceux qui raisonnent vraiment par la sagesse. Et enfin, troisièmement, encore faut-il les reconnaître. Le problème des hommes sages, c'est qu'ils n'ont pas envie de gouverner et qu'en plus, il faut qu'ils soient reconnus par des hommes moins sages qu'eux. Parce que si eux-mêmes se reconnaissent en tant qu'hommes sages, ça ne marche pas très bien. Et je suis sage, je n'ai pas envie de gouverner, mais je vais le faire pour vous. Bon. Donc, il y a des problèmes d'application, ça c'est sûr. Mais théoriquement, ça marche assez bien. Il faut que les hommes qui n'ont pas envie de gouverner, mais qui sont particulièrement, qui se sont illustrés par leur capacité de jugement, par leur justesse, par leur justice, soient aux commandes. Très bien. Y a-t-il un moyen de les discerner ? Y a-t-il un moyen de l'appliquer ? Peut-être. Peut-être bien. Mais alors à ce moment-là, il faut fonder la politique, la vie politique et la justice d'une façon complètement différente de ce qu'on vient de faire jusqu'à présent avec Hobbes. On va reprendre la base d'une façon absolument nouvelle et on va le faire justement avec Rousseau. Rousseau, en quelque sorte, va permettre d'incarner cet idéal platonicien, mais d'une façon extrêmement intelligente. Que va nous dire Rousseau ? On jette le premier modèle, celui de Hobbes, qui est un des deux fondements possibles, hein, et on recommence, on rebâtit. Parce que de toute façon, Hobbes, il s'est planté. Hobbes a dit, à l'état de nature, les hommes se font la guerre. Pas du tout, nous dit Rousseau. On va refonder l'état de nature. À l'état de nature, eh ben, on imagine quel homme, allez, on recommence. On recommence l'hypothèse. Qu'est-ce que l'homme si on lui enlève les lois ? Est-ce que les hommes se font la guerre ? Absolument pas. Vous lui enlevez les lois à l'homme. Il n'a jamais connu les lois. Il ne veut pas faire la guerre, c'est un doux ahuri, parce qu'il n'a jamais été dans la société. L'homme sans les lois, c'est un animal, c'est une sorte d'animal. Il vivote, il vit tranquille, il est bien. Pourquoi, nous dit Rousseau ? Parce que c'est la société telle qu'elle existe qui va pervertir l'homme. Son naturel, au départ, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon non plus, il est indéterminé. En fait, l'homme va devenir ce que les lois vont le faire devenir. L'homme va devenir ce que la société tout entière va le faire devenir. Mais pour l'instant, si on enlève les lois, si l'homme n'a jamais connu les lois, qu'est-ce qu'on a ? On a un homme indéterminé, on a une sorte d'animal qui a une seule différence avec le vrai animal classique, c'est qu'il peut se transformer, il peut s'améliorer. L'animal, en général, on l'a déjà vu avant, hein, mais l'animal est plutôt soumis à des codes naturels. L'homme en a moins et il peut un peu plus se transformer. C'est ce que Rousseau appellera dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, la perfectibilité. L'homme est perfectible. Mais ça veut dire qu'il sera ce que la société le fera devenir. Vous le plongez dans une société bonne avec des lois justes, il va devenir meilleur. Vous le plongez dans une société pleine d'inégalités et d'injustices, là il va devenir une crapule. Donc l'homme au départ, il est rien, il sera finalement ce que la société fera de lui. Dès lors, on n'a plus du tout la même base. Il se trouve, nous dit Rousseau, que la société a fait de l'homme une crapule. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire que l'homme le soit. Ça veut dire que Qu'est-ce qui s'est passé? On a une société que dépeint Rousseau pleine d'inégalités. C'est plus la nôtre, hein, rassurez-vous. C'est une société, vous allez voir comme c'est très loin de notre modèle, où tout le monde se regarde les uns les autres. Où on passe son temps à se contempler soi-même. Où on regarde toujours ce qu'a le voisin, on est jaloux de lui. Où on est prêt à la plus grande hypocrisie pour être reconnu par ses pairs. C'est pas la nôtre. C'est celle que dénonce Rousseau. Il dit, alors cette société, évidemment, elle fait de l'homme une espèce de crapule. Il n'avait pas encore compris Facebook, hein. Il serait malade. Mais pour l'instant déjà, il avait compris qu'il y avait des sortes de parades et qu'en fait les lois édictées par les sociétés qu'il dénonce, c'est les lois toujours qui sont au service des plus riches. C'est-à-dire que les plus riches, au fond, ou les plus influents, ou les plus puissants, ont réussi, et ça c'est ça leur tour de force, c'est la fin d'origine de l'inégalité parmi les hommes, c'est que les plus puissants ont réussi à faire croire aux plus faibles que les lois étaient à leur avantage à eux, aux plus faibles. Il dit, alors qu'en fait c'est pour protéger leur intérêt. Il dit, écoutez, on va faire des lois, on va s'unir, et puis comme ça on sera tous plus forts, on va réduire les inégalités. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils savent très bien que les lois vont toujours avantager, c'est ce que reprendra un peu Marx, hein, vont toujours avantager, en gros, ce qu'on pourrait dire avec Marx, les classes dominantes. Donc Rousseau va dire, l'homme, certes l'homme est égoïste et pas très bien, mais il est comme ça parce que la société l'a rendu comme ça. Parce que justement la société ressemble trop à celle du modèle de Hobbes. En fait, ce que dépeint Hobbes dans l'état de nature, c'est pas du tout l'homme naturel, c'est l'homme déjà perverti par la société. Changeons les bases de la société, on améliorera l'homme. Comment change-t-on? Eh bien, simplement, il va refonder la politique sous un autre terme, le contrat social. Les hommes et l'état de nature, finalement, sont indéterminés, mais ils voient tout de suite, rapidement, bon, pour tout un tas de raisons et de péripéties, qu'en se rassemblant, d'abord par pur hasard, et puis après, parce que, voilà, à plusieurs, on est plus fort. On résiste aux intempéries, on peut faire un progrès tous ensemble, etc. Bon. Donc, on a intérêt à se retrouver ensemble. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on est moins puissant que les autres animaux, mais notre force, c'est de pouvoir être ensemble. Très bien. Donc, on a besoin de s'assembler, ok. Simplement, la société sera juste à partir du moment où on aura compris ceci. Il y a une différence en chaque individu entre ses intérêts particuliers et son aspiration à obéir aux règles de la volonté générale. Alors là, en revanche, juste, il faut y croire. C'est l'idée, en fait, que la volonté générale, c'est la volonté du peuple tout entier. Mais c'est aussi notre liberté. Notre liberté la plus pure. C'est-à-dire la liberté la plus politique, mais aussi la plus fondamentale. L'homme est né libre et partout, il est dans les fers, nous dit Rousseau. Pardon. Donc ça, c'est le constat de base. Dans les faits, on est né libre. Notre aînée nature fait de nous des créatures libres, et pourtant on s'est nous-mêmes enchaînés. Comment peut-on complètement se libérer? Eh bien, on peut se libérer et avoir une société juste si on laisse la souveraineté, non pas à un dirigeant qui impose des lois au peuple, mais au peuple. Donc, quel est le nouveau fondement de la politique? Qu'est-ce qu'une société juste? C'est une société où la souveraineté est laissée au peuple. Et comment le peuple reste-t-il libre si justement il est un peuple, c'est-à-dire s'il n'obéit pas à tout un tas de volontés particulières, égoïstes, qui tendent à lever leur intérêt propre, mais si on trouve un moyen d'exprimer ce qu'on appellera la volonté générale, que vous portez tous en vous? Qu'est-ce que la volonté générale? C'est votre aspiration au bien commun. C'est la raison. Et elle existe. Elle est souvent étouffée par les intérêts particuliers, mais elle existe. Et comment s'exprime-t-elle? Par le suffrage. Par le vote. Par le fait qu'on décide de lois en commun. Pourquoi? Alors là, ça va être énorme, ce que je vais vous dire. Parce que souvent, on ne mesure pas la violence de Rousseau. La violence de Rousseau, c'est si vous acceptez de laisser la souveraineté au peuple, ça veut dire que dès que le peuple s'est prononcé, il a raison. Parce que on lui laisse la possibilité de s'exprimer librement, eh bien sa décision, ce sera ce qu'a décidé la volonté générale. Ça veut dire, élection, imaginons élection. Vous avez deux candidats, il y en a un que vous voulez absolument pas du tout, et imaginons que l'autre vous vouliez au moins un peu plus. C'est le candidat que vous vouliez absolument pas qui est élu, on vous a laissé la possibilité de voter. Le candidat qui est élu, que vous vouliez absolument pas, imaginez pour vous la terreur absolue chez un candidat, eh bien il est légitime. Si vous acceptez le principe de la démocratie, vous n'avez pas le droit, derrière, de dire « Mais non, c'est un scandale, lui je le voulais pas. Allez, soyons fous. » Disons les choses clairement, imaginons, parce que c'est assez possible, alors après, j'essaie de... Mais voilà, imaginons que le candidat qui est élu, c'est un candidat qui propose d'abroger même la démocratie. Eh bien, démocratiquement, on aura élu légitimement quelqu'un qui décidera qu'après lui, il n'y aura plus de démocratie. En fait, la volonté générale, c'est l'idée que vous laissez libre le peuple à une condition, c'est que vous acceptiez la décision du peuple. Parce que sinon, c'est quoi ? C'est les intérêts particuliers qui l'emportent. S'il y a ceux qui ne sont pas contents, « Non, je ne voulais pas ce président, c'est dégueulasse !» et qui manifestent dans la rue, eh bien là, c'est de l'oppression. On a laissé les gens libres, ils ont décidé. Le peuple est libre s'il peut s'exprimer. À partir du moment où on entrave sa décision, eh ben on fait de nouveau des pressions. Et c'est de nouveau une guerre de tous contre tous. Mais c'est énorme. Parce qu'en fait, on n'est pas très prêt à accepter ça. On est prêt à voter à ce qu'on nous laisse librement la possibilité de nous exprimer en tant que peuple. Mais quand ça contrevient à notre intérêt particulier, généralement, ça nous fait mal. Et dans ces cas-là, on dit « je suis pour la démocratie, mais que quand elle respecte quand même mes convictions ». C'est violent, hein ? Mais en revanche, nous dit Rousseau, c'est la seule possibilité pour qu'il y ait vraiment une justice, qu'il y ait des lois justes. Parce que du coup, les lois, on va les décider. Alors vous allez me dire, oui, et c'est tout le problème, absolument que j'ai le temps encore d'aborder ce point, mais ça va. Vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça. Oui, mais on n'élit pas grand-chose. Hein. On élit parfois des représentants qui eux-mêmes savent peut-être pas toujours très bien ce qu'ils font et qui surtout ne posent pas beaucoup la question pour les lois qu'ils vont édicter. D'ailleurs, parfois, ils ne nous la posent pas du tout. Ils nous embêtent un peu. Mais, en gros, si pour être libre, il faut que le peuple puisse décider, s'il est souverain, bien sûr, l'exécutif, tout ça étant ses représentants, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous, vous, je ne sais pas, moi, pas beaucoup, qui participent directement à l'édiction des lois du pays. Et bien, c'est pas grave, nous dit Rousseau. À condition que les lois qui sont édictées reflètent vraiment ce qu'aurait choisi le peuple. Alors, vous allez me dire, mais ça, c'est pas évident à reconnaître, quoi, justement. Du moment qu'on ne lui pose pas directement la question, c'est pas évident à reconnaître. Qu'est-ce qui, du coup, était une loi juste ? Vous avez compris le fonctionnement. Pour Rousseau, c'est une loi juste si le peuple a décidé. Le problème, c'est qu'on dit, bon, on ne peut pas vous demander pour toutes les lois, mais on suppose que toutes les lois qui sont édictées sont celles que vous auriez choisies. Oui, mais ça pose un peu problème. Alors déjà, il y a ce premier problème, et il y a surtout le problème du législateur universel, et c'est ça qu'on va essayer de résoudre dans une dernière partie. C'est que, Rousseau en avait parfaitement conscience, il a dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un qui décide des lois, pour qu'il y ait des lois vraiment justes, il faudrait que ceux qui décident des lois ne soient pas partie prenante, qu'ils n'aient pas d'intérêt particulier, qu'ils soient directement l'émission de la volonté générale. Donc il faudrait en fait simplement, c'est pas très compliqué, un législateur intemporel, qu'il soit d'aucun lieu, d'aucun temps, donc qu'il puisse se prononcer objectivement, essayer d'imaginer ce que lui aurait choisi, sans être partie prenante. C'est pour ça que ça semble très idéaliste. Mais en fait, pas tant que ça. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le modèle de Rawls, qui ne fait que reprendre ce que dit Rousseau. Donc, enfin, en approfondissant, hein, j'enlève rien à Rawls. Mais donc, on en reste pour l'instant à nos deux modèles qui nous semblent, à mon avis, très très faciles et très intéressants. Je me flatte moi-même, pour comprendre tous les problèmes politiques du moment. C'est toujours les mêmes débats. Hein. Il y a ceux qui disent, mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, paf, vous décoderez, modèle réaliste. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, les hommes étant ce qu'ils sont, de faire une loi qui serait un doux rêve et qui ne marcherait pas. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui disent, oui, mais si vous fonctionnez comme ça, les gens ne changeront jamais. Vous ne changerez pas le fond du problème. Donc en gros, vous avez ceux qui sont, par exemple, qui se désespèrent du capitalisme, mais qui disent, on n'a plus le choix aujourd'hui. Et qui disent, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne voulez pas l'abroger, le capitalisme, c'est pas possible, soyons un peu réalistes, soyez pas des doux crétins rêveurs, c'est comme ça, il faut essayer d'améliorer. Et vous avez les idéalistes qui disent, oui, mais si vous jouez le jeu du capitalisme, si vous améliorez, en fait, en gros, c'est comme si vous mettiez un coussin sous les fesses du pauvre ouvrier chinois qui travaille pour Foxconn. Vous savez, bon, encore une fois, toujours ce vieux truc d'Apple qui fait sous-traiter d'une façon absolument atroce leurs machines par des ouvriers chinois qui sont dans des situations tellement affreuses qu'ils se défenestraient. Je prends toujours cet exemple parce qu'il me semble tellement emblématique du capitalisme. Sauf que, comme ils se défenestraient, c'était un peu ennuyeux. Et oui, ils se défenestraient parce que, quand même, quand ils mouraient, on reversait à la famille le salaire qu'ils auraient dû toucher. Alors que s'ils partaient, on leur reversait rien. Donc ils se tuaient. Donc Apple a dit, ah bah c'est emmerdant, oui, non, ça fait mauvaise publicité. Et donc ils ont mis des filets sous les fenêtres. Donc les gens pouvaient plus défenestrer. Non, c'est pas une blague, hein, ils ont mis des filets. Vous voyez l'ironie absolue. Bon, donc il y a ceux qui diront, les idéalistes, hein, oui, mais si vous acceptez ça, c'est comme si ça reviendrait à mettre juste un coussin sous les fesses de l'ouvrier de Foxconn. Vous mettez un pansement. Donc bref, tout ça pour dire que ces deux modèles, finalement, sont tout aussi vraisemblables, mais ils sont opposés. Et bien en revanche, ils permettent de comprendre beaucoup de choses. Bon, mais imaginons qu'on soit un peu plus idéaliste que réaliste. Imaginons que l'homme puisse progresser, qu'il puisse y avoir la possibilité d'améliorer l'homme en améliorant les lois. Comment on fait ? Eh bien, John Rawls va justement se poser cette question dans son fameux ouvrage « Théorie de la justice ». Que va nous dire John Rawls ? Alors c'est énorme, hein, c'est un truc qui est une référence absolue, hein, en matière de théorie du droit, théorie de la justice d'ailleurs, américaine. Mais il y a des textes géniaux dedans et qui vont être un peu la base moderne, ou en tout cas contemporaine, des débats sur la justice. Que va nous dire Rawls ? Alors d'abord, au début, il va faire lui aussi, il aime bien ses hypothèses, un peu d'état de nature, tout ça. Donc il va prendre une sorte de métaphore célèbre qui sera le voile d'ignorance et qui reprend finalement à mot couvert ce législateur universel de Rousseau. Que va dire Rawls ? Il va dire, bah, pour trouver les principes objectifs, en tout cas les plus objectifs, de ce que pourrait être une cité juste ou une loi juste, imaginons que nous soyons soumis, enfin que les législateurs débattent entre eux de ce qu'ils considéreraient comme les lois les plus justes possibles, tout en sachant à l'avance qu'ils ne sauront pas, pour une société, mais sans savoir à l'avance quel rôle eux-mêmes auront dans cette société. Il faut faire en sorte que les législateurs qui décident des lois décident ensemble, mais de telle sorte que quand bien même ils auraient le rang le plus bas de la société, ils voudraient quand même y être. Il serait préférable pour eux d'être dans une société au plus bas degré plutôt que de ne pas y être. Parce que c'est toujours toute la question. Finalement, si la société est trop injuste, je serais mieux tout seul. Et bien là, il faudrait trouver un mode d'association qui montre que, même en étant tout en bas de l'échelle, il serait quand même préférable, vous auriez quand même plutôt envie d'être dans cette société plutôt que de ne pas y être. Pas mal. C'est juste une expérience de pensée. Mais elle est pas mal. C'est-à-dire, voilà comment on pourra déjà, par le voile d'ignorance, imaginer des lois les plus justes possibles. Et qu'est-ce qui va se passer, nous dit-il, si vraiment on se met dans cette situation-là ? Eh bien, un certain nombre de principes vont nous apparaître. Et c'est les principes qu'il propose. Deux principes, alors je vais directement aux principes parce que pas trop le temps de développer le reste. Les principes qu'il propose sont les suivants. En premier lieu, nous dit-il, chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté de base, égal pour tous, qui soit compatible avec le même système pour les autres. Bon, c'est pas facile, mais en gros, c'est ce qu'on va appeler les droits-libertés. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que tout le monde ait droit à un certain nombre de libertés fondamentales, de libertés de base, qui les définit, qui sont évidentes, hein. Mais ça, c'est le principe premier. Ces libertés-là doivent être pour tous, accessibles à tous, et aux dépens de personne. Donc les libertés de base, les plus importantes, hein, je vous dis que les plus importantes, c'est le droit de vote, d'occuper un poste public, liberté d'expression, de réunion, liberté de pensée, de conscience, liberté de la personne, qui comporte la protection à l'égard de l'oppression psychologique et de l'agression physique, le droit de protection personnelle, la protection à l'égard de l'arrestation et de l'emprisonnement arbitraire, etc. Donc, il définit un certain nombre de libertés de base égales pour toutes, pour tous, absolument. Et qui sont censés n'entraver personne. La liberté de personne. Bien. Donc ça, c'est assez évident. Sauf que ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout après. Deuxième principe, mais qui ne doit jamais l'emporter sur le premier. Les inégalités sociales et économiques, là pour l'instant je cite, doivent être organisées de façon à ce que, à la fois, on puisse, petit a, raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun, et petit b, qu'elle soit attachée à des positions et des fonctions ouvertes à tous. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liberté de base, on est d'accord. Bon. Et après, il y a ce qu'on va appeler les droits-créances. C'est-à-dire que des revendications, on doit admettre des inégalités. On ne peut pas admettre une égalité stricte. On a bien vu que le communisme, c'était un peu difficile à appliquer sans... Enfin bon, bref, pardon, je ne veux pas me rentrer dans ce débat, hein, ce n'est pas pour attaquer vos sensibilités. Mais bon, pour l'instant, ça ne s'est pas toujours très bien passé. C'est un euphémisme. Donc, la question ne va pas être d'essayer de faire une sorte de redistribution qui limite absolument les inégalités. On va accepter les inégalités. Mais il faut faire en sorte que ces inégalités soient petit a, à l'avantage de chacun. C'est-à-dire que même si vous êtes tout en bas de la société, vous bénéficiez quand même des inégalités. Ça paraît étonnant, mais en fait, ce n'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver un niveau intermédiaire qui fait que, même dans la situation la pire, on soit quand même suffisamment avantagé pour qu'on ait en retour quelque chose de ces inégalités. Bon, là, ça pourrait être par exemple par les impôts, hein, tout simplement, une sorte de redistribution qui permette derrière de rétablir par l'État des inégalités. Vous êtes pauvre, mais vous avez droit aux mêmes soins qu'un riche, par exemple. Bon, ça, c'est juste un exemple commun. Hein, bon. Mais il faut que ces inégalités, du coup, puissent être au final un peu à l'avantage de chacun. Mais deuxièmement, qu'elles soient attachées à des positions et des fonctions ouvertes à tous. C'est-à-dire que potentiellement, si vous donnez la peine, vous pouvez justement franchir les échelons et un jour aspirer à quelque chose de meilleur. Bon. Tout cela semble un peu général, mais en fait, si vous vous intéressez un peu à toutes ces questions, lisez Théorie de la justice, vous verrez que c'est loin d'être si général. Là, je vous donne les principes généraux, et après, il y a 500 pages de développement qui proposent des principes, qui proposent des solutions, qui proposent des modèles, des contre-modèles, des tas de choses. Il propose des choses, ça existe. Hein. Peut-être ne saviez-vous pas ça, mais on se dit, tiens, mais en fait, personne n'a vraiment réfléchi à ce que pourrait être une société juste. Si, mais personne ne le lit, c'est dommage. Enfin, Rawls, c'est très très connu, mais personne, comme ça, l'honnête homme ne lit pas Rawls. Il n'y a que les philosophes épris de philosophie du droit qui lisent Rawls. Y a-t-il quelqu'un ici qui a lu 600 pages de Rawls? Moi-même, je ne l'ai pas lu. J'ai lu quelques pages de Rawls. Celles qui me semblaient les plus intéressantes, les plus connues. Mais bon, ces solutions existent. Et elles ne sont pas si évidentes. La preuve, le débat. Alors voilà, pour moi, Robert Nozick représente justement le type qui dira exactement le contraire. Que va nous dire Robert Nozick? Eh bien lui, il va au contraire dire ce qui compte, c'est la liberté. La liberté, ça suppose de renoncer le plus possible à l'intervention de l'État. En fait, pour Nozick, la simple perspective d'une intervention de la machine étatique pour corriger les répartitions de l'activité économique, c'est quelque chose d'incompatible avec les droits à liberté. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que Nozick, mais c'est pas idiot, mais juste on peut trouver ça complètement aberrant, mais c'est que si l'État commence à redistribuer les choses pour essayer de compenser les inégalités, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'on suppose dans ces cas-là que les ressources que l'État redistribue, qu'il hérite des impôts, hein, et qu'il redistribue sous forme d'hôpitaux, d'écoles, de ce que vous voulez. Bref, tout ce qui vient des impôts, c'est considéré comme des cadeaux du ciel qui viennent de nulle part. En fait, Nozick, il est complètement contre les impôts. Parce que ce qu'il dit, c'est toute forme d'impôt, c'est quoi? C'est qu'on vous prend une partie de votre travail, et après on le redistribue. Mais de quel droit, nous dit-il, au fond? De quel droit? Au fond, tout devrait être un système d'échange absolument libre. En fait, Nozick ne fait que prolonger la tendance actuelle d'un libéralisme absolu et total. Mais alors vraiment, en revanche, il écrit tout un tas d'articles extrêmement intéressants, mais voilà. Alors lui, c'est, on est à fond dans la liberté, tout ce qui est une sorte d'inégalité, justement, compensée par l'État, c'est forcément une injustice. La justice, c'est une égalité stricte, c'est une égalité stricte des libertés, qui suppose des échanges absolument libres. Ça veut dire, alors, par exemple, pour l'illustrer, il prend un exemple de Wilt Chamberlain, pardon pour mon accent, ce qui était une star américaine du basket dans les années 70. Et il dit, au fond, les échanges, c'est quoi? Il a gagné des milliards, bon, en tout cas des millions de millions, peu importe. Des footballeurs, ce qui est un peu le contraire, qui gagnent des centaines de milliers d'euros tout le temps, on va pas chipoter. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment il les a gagnés, ces millions? Bah, parce que des gens ont payé pour aller le voir $30. Vous, vous êtes content, vous allez voir Will Chamberlain, vous payez $30, lui il est content, il fait son match, il ramasse de l'argent, tout le monde est content. Vous avez payé, il a donné un truc, voilà, pourquoi on se plaint? Du moment que les gens sont prêts à donner de l'argent au footballeur, bon lui il n'est pas footballeur, mais on peut faire ça pour les footballeurs, où est le problème? Il gagne de l'argent, pourquoi il en redonnerait? Will Chamberlain. Donc là, on a, là au moins, ce qui est bien, c'est que c'est pied dans le plat. Nozick, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il n'essaie même pas de trouver des pirouettes ou des astuces pour vous faire passer ses idées. Simplement, il accepte les règles fondamentales du capitalisme, ce qu'on appellera un néolibéralisme, pour être poli. Eh bien, il va dire, voilà, en fait, il n'y a pas d'intervention à faire. Il faut laisser un libre-échange total, tout doit reposer sur des bases de commerce absolument libres. Alors Rawls, justement, dit non, ça ne marche pas du tout, mais tout ça parce que, justement, ils ne parlent pas de la même chose. Rawls dit, le meilleur état social souhaitable, c'est-à-dire la meilleure répartition possible, elle ne correspond pas du tout à une situation, évidemment, où il n'y a pas d'inégalité du tout. Parce que là, ce serait une intervention beaucoup trop forte de l'État. Mais un monde... Ou plutôt, on pourrait envisager juste un état social qui est tel que, en modifiant, en améliorant le sort de certaines personnes, on ne contrevient pas au sort des autres. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas essayer une égalité stricte, il ne faut pas chercher l'équité, ça ne veut rien dire non plus, mais un principe de maximisation du minimum social. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, encore une fois, que l'égalité des plus mal lotis soit nécessairement améliorée par toutes les lois qu'on va édicter. Du moment que la loi contribue à améliorer le sort des plus mal lotis, c'est une bonne loi. Je trouve que le critère est plutôt intéressant, parce que du coup, il y a deux critères, c'est une sorte de double critère. La justice d'une société se mesure au sort des plus mal lotis, ça c'est génial comme idée. Je répète, la justice d'une société se mesure au sort des plus mal lotis. Plus les plus mal lotis, finalement, sont quand même contents d'être dans la société, plus la société est juste. Deuxième critère, c'est une sorte de contre-critère, l'injustice réciproquement, c'est alors simplement ce qui est constitué par les inégalités qui ne bénéficient pas à tous. Donc chaque fois qu'il y a une inégalité qui ne bénéficie pas à tout le monde, c'est une injustice. Exemple, j'ai entendu hier à la radio que le patron de Sanofi, à radio, je ne sais pas s'ils ont raison, alors voilà, c'est ma femme qui m'a dit, devine combien se fait par mois le directeur de Sanofi. Après, ça peut être vérifié. Alors, j'ai dit bêtement, je provoque un peu, j'essaye de dire un chiffre qui me semble humain. J'ai dit, 30 000 euros. Elle me fait, enfin, genre, t'es complètement con. Bon, 30 000 euros, non. Alors, je grossis, je dis 300 000. Elle me dit, non, mais bon, enfin, en gros, c'est pas la peine de discuter avec toi. La réponse était, par mois, sans compter les bonus, 1 300 000. Non, 1 200 000. 1 200 000 euros par mois. Alors évidemment, avec mes 30 000, je les fais rire. Ça pourrait être considéré comme une sorte d'injustice sociale. Parce que je ne suis pas sûr que gagner 1 200 000 euros par mois contribue à rendre les inégalités plus bénéfiques pour tous. Donc là, on a un exemple d'inégalité qui ne marche pas très bien. Alors que Nozick dirait à l'inverse, pas du tout. Ça marche très bien. Si les gens sont prêts, il fait son truc, ça marche. Tout le monde est content de Sanofi, je ne sais même pas ce que c'est. Si j'ai entendu le nom, mais je ne saurais même pas vous dire de quoi c'est. Tout le monde est content, ça marche bien, c'est coté en bourse. Où est le problème? Si un jour ça ne marche pas, il sera expédié, on remplacera. Voilà. Bon, voilà, vous avez vraiment vous avez une sorte de réalisme cru, Nozick, et vous avez une sorte de souci de justice sociale idéaliste, Rawls. L'idée de Rawls, c'est qu'effectivement, on peut rendre l'homme meilleur en améliorant les lois. Et on peut même trouver des principes objectifs qui ne sont pas simplement un doux rêve. Simplement, il faut essayer toujours d'avoir des critères qui permettent d'évaluer la justice sociale de chaque loi. Et cette justice sociale, elle se mesure au sort des plus mal lotis. Voilà, bon, ce sera aussi ma conclusion parce que j'arrive au terme de mon exposé.